J'espère que vous avez des nombreuses objections que vous avez besoin. Néanmoins, devant le tour parfois un peu technique que prendra mon argumentaire, je vous demanderai de ne pas hésiter à m'interrompre pour demander un éclaircissement, une précision, une définition, si quelque chose devait vous sembler un peu obscur. Voilà. Donc on va commencer, comme il se doit, par une petite histoire, par une petite anecdote. Maaseh Echad, il était une fois. Et la scène se passe dans une bourgade d'Israël, où deux hommes, un rabbin parfaitement intègre et un homme, un collecteur d'impôts, un juif corrompu, du nom de Baaya, meurt le même jour. Les cortèges funéraires se rassemblent, les deux hommes sont conduits au cimetière, lorsque surgit une bande de voleurs qui foncent sur la ville. Panique. Les deux processions se dispersent et reste un disciple, le disciple préféré du rabbin. Il reste pour surveiller les deux cercueils. Les voleurs font leur besogne, ils repartent et évidemment se produit là une confusion atroce. Ceux qui étaient venus pour enterrer le rabbin se trompent de cercueil, prennent le cercueil du collecteur d'impôts, et vice-versa. Le disciple sort de sa cachette, interpelle la foule, attention, attention, vous vous trompez, mais personne ne l'entend, et c'est comme ça que le rabbin est enterré très rapidement, il a droit à un enterrement de deuxième classe, et c'est comme ça que le collecteur d'impôts est enterré à la place du rabbin. Stupeur, accablement, le disciple rentre chez lui. Il arrive malgré tout à trouver le sommeil, et au milieu de la nuit, son maître lui apparaît en songe et lui dit « Cher disciple, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer pourquoi j'ai subi un tel outrage. J'avais dans ma vie commis des fautes, et cette confusion vient réparer ces fautes. Me voilà entouré d'honneur dans le ciel, ne t'inquiète pas. » Le disciple est rassuré. Mais, plein de compassion, demande ce qu'il advient du collecteur d'impôts. Et le rabbin lui explique qu'il subit évidemment des châtiments pour s'être très mal comporté durant sa vie terrestre. Et malgré tout, ces châtiments auront une fin. Ils prendront fin lorsque un dénommé Shimon ben Chattar mourra. Et ce Shimon ben Chattar prendra sa place en enfer. Là, le disciple, loin d'être rassuré, se dit, mais comment est-ce possible? Il faut expliquer qui est Shimon ben Chattar. On est deux générations avant Jésus. Shimon ben Chattar est un des rabbins les plus célèbres de sa génération. Il est connu par la tradition juive comme étant le sauveur de la Torah. C'est lui qui a mis en place des écoles primaires dans tout le pays pour que les jeunes enfants puissent apprendre à lire et donc étudier la Torah. On se demande bien ce que Shimon ben Chattar a pu faire pour mériter un sort pareil. Eh bien, le rabbin explique, toujours dans le songe, dans la ville d'Ashkelon habitent des sorcières, et Shimon ben Chattar ne les a pas chassées. C'est donc là une faute qui doit être expliquée. Le lendemain matin, le disciple, sans perdre de temps, court au domicile de Shimon ben Chattar pour lui expliquer le songe. Shimon ben Chattar rassemble une troupe d'hommes, 80 hommes. Ils partent sous une pluie battante jusqu'à Ashkelon, en ayant pris la précaution d'enfermer dans une toile imperméable une tunique. Shimon ben Chattar se rend au château où habitent les sorcières, et se présente comme un mage, un magicien très puissant, qui leur lance un défi. Et voilà, je vous fais le pari que, grâce à mes pouvoirs magiques, je suis capable de faire apparaître 80 hommes qui seront habillés de vêtements secs, malgré la pluie. On a compris le subterfuge. Les sorcières acceptent, les hommes de Shimon ben Qatar entrent dans la place forte, se saisissent des sorcières et les exécutent. Quelques jours plus tard, les parents, les amis de ces sorcières se réunissent pour comploter contre Shimon ben Qatar et mettent au point un plan machiavélique. Deux d'entre eux se rendent au tribunal rabbinique pour décoser, pour expliquer que le fils de Shimon ben Qatar a été vu en commettant un crime qui est passible de la peine capitale. Les deux témoignages sont acceptés par le tribunal rabbinique qui convoque le fils de Shimon ben Qatar, qui est donc condamné à mort. Avant son exécution, le fils de Shimon s'écrie que mon sang retombe sur les faux témoins. Les faux témoins qui sont obligés d'assister à l'exécution sont pris de panique, avouent avoir menti, mais le tribunal a rendu sa sentence, et donc le fils de Shimon ben Qatar est exécuté malgré tout. Donc ce qu'il nous reste à comprendre, par cette anecdote que Rashi nous raconte à deux reprises dans le Talmud. Alors Rashi, c'est le grand commentateur biblique et talmudique du XIe siècle, un grand rabbin champenois, rabbin et vigneron, et du Champagne. Donc à deux reprises dans le Talmud, Rashi nous raconte cette histoire. Alors évidemment, une question se pose. Comment comprendre la punition qui s'abat sur Shimon ben Qatar, alors même que l'exécution du fils apparaît comme un châtiment pour le père, mais un châtiment qui est anachronique, puisqu'au moment où le fils est assassiné, exécuté par le tribunal, la faute de Shimon, du père, n'existe plus, puisque les sorcières ont bel et bien été exécutées. Donc là, on ne comprend pas du tout pourquoi le fils de Shimon ben Qatar a pu ainsi être exécuté. Alors, pour essayer de comprendre, on va se tourner vers une Mishnah du Talmud. Alors, pour situer très rapidement, le Talmud, en gros, est constitué de deux parties. La Mishnah, qui est un code de loi, qui a été mise par écrit au IIe siècle de notre ère par Rabbi Judah le prince et Yehuda Anassi. Donc, on peut considérer très rapidement que c'est un catalogue de lois rabbiniques. Et puis, la deuxième partie du Talmud, la partie la plus essentielle, c'est la Gemara, qui est en fait une compilation de discussions rabbiniques qui visent en fait à comprendre les lois édictées dans la Mishnah. Donc si on se tourne vers le traité Sanhedrin, qui est le traité du Talmud où on discute des affaires judiciaires, on trouve une Mishnah qui explique la chose suivante. Après avoir été lapidés, les condamnés à mort sont pendus. Tous ceux qui sont lapidés sont ensuite pendus. Les sages expliquent que ceci s'applique aux hommes, mais pas aux femmes, qui sont exemptées. Et évidemment, c'est le propre de la Gemara. Il y a une controverse et un rabbin très célèbre, Rabbi Eliezer, va s'opposer aux sages en disant « Mais comment pouvez-vous affirmer une chose pareille? Bien sûr que les femmes ne sont pas exemptées, bien sûr qu'elles sont pendues après avoir été lapidées. La preuve, Shimon ben Qatar, à Ashkelon, a pendu 80 femmes, 80 sorcières, le même jour. » Donc il se prévaut de cette anecdote pour contester l'enseignement des sages. Alors les sages objectent à Rabbi Eliezer en disant que, certes, Rabbi Shimon ben Qatar a pendu 80 femmes le même jour, mais c'est interdit par la loi juive. On ne peut pas juger le même jour deux affaires criminelles pour lesquelles les condamnés pourraient être passibles de la peine capitale. Or là, on a largement dépassé le compte, il y avait 80 sorcières. Donc là, apparemment, on a compris quelle est la faute de Shimon ben Chata. Pourquoi est-ce que son fils a été assassiné, exécuté par le tribunal? Eh bien, parce qu'il n'a pas su respecter le droit, parce que, pour le dire dans nos termes, il a bafoué les droits de l'homme, de la femme en l'occurrence, le droit des sorcières à ne pas être pendues toutes le même jour. Sauf que Rachid, n'est pas convaincu par l'argumentation des sages de la Mishnah, et il explique que à l'époque où vivait Shimon ben Chattar, il y avait des crimes tellement atroces qu'on pouvait faire une exception. Donc, certes, Shimon ben Chattar n'a pas respecté la loi, mais dans une situation exceptionnelle, eh bien, on suspend l'application normale de la loi, et donc on ne peut pas réellement considérer qu'il a agi en contrevenant à la loi, en bafouant les droits de ces femmes. Donc la mesure d'exception est finalement réintégrée dans le droit traditionnel. Deuxième controverse entre les sages et Rabbi Eliezer, les sages expliquent que on pend les hommes face à la foule. Rabbi Eliezer conteste, puisque lui pense qu'on peut pendre à la fois les hommes et les femmes, il dit non, on pend tout le monde, mais la différence, c'est qu'on pend les hommes face à la foule, et on pend les femmes dos à la foule. Mais on pend bien tout le monde. Donc là, il semble qu'on ait finalement qu'on ait trouvé la faute de Shimon ben Chattar. Il les a pendus, pas dans le bon sens. Il les a pendus face à la foule, il fallait les pendre dos à la foule. Donc, il n'a pas tort parce qu'il les a pendus, il a tort parce qu'il s'y est mal pris. Alors la question qui se pose maintenant, c'est d'où sait-on cela? Sur quoi s'appuient les sages et sur quoi s'appuient Rabbi Eliezer, chacun de leur côté, pour trancher? Eh bien, ils s'appuient sur un texte du Deutéronome, chapitre 21, verset 22, que j'ai donc indiqué sur le plan détaillé que je vous ai fourni. Donc, première partie, donc sous-partie C, petit 2, un homme ou une femme. Et donc, le texte le verset du Deutéronome dit la chose suivante: si un homme est coupable d'un crime qui mérite la mort, qu'il ait été exécuté, que tu l'aies pendu, etc., etc. Bien. Le texte, disent les rabbins, est parfaitement clair. Il est écrit, un homme. Et un homme, bien, ça n'est pas une femme. Donc, le verset vient exclure les femmes. Donc, on apprend du verset, si un homme fait ceci ou cela, que les femmes ne seront pas pendues. Donc la loi est tirée directement du verset, directement de la formulation exacte du verset. Alors en des termes, si on essaye d'abstraire un petit peu et de comprendre la logique qui anime donc les sages de la Mishnah, on peut définir leur point de vue comme relevant d'une logique fondationaliste. C'est-à-dire que leur position juridique consiste à fonder un principe de loi sur la formulation d'un verset. D'accord ? C'est ce que je vais appeler donc le principe fondationaliste. Il s'agit de fonder une pratique directement sur la lecture d'un verset. Alors, ce type de logique que j'appellerai donc fondationaliste se retrouve ailleurs dans le même folio talmudique, folio 45a. Lorsqu'il est question, cette fois, d'expliquer la façon dont on procède pour lapider. Alors, en fait, pour lapider, c'est surprendre, je vous l'apprends, on ne jette pas de pierre. On creuse une fosse et on pousse le condamné en bas de la fosse. Et éventuellement, s'il n'est pas mort sur le coup, on le lapidera ensuite. Mais la lapidation se fait sans pierre. Bon, bref. Or, on apprend dans une Mishnah, dans le traité Baba Kama, folio 50b, qu'il faut que la hauteur de la fosse fasse 10 largeurs de main. Bon. Alors, on se demande bien pourquoi une telle hauteur. Suivez l'explication. C'est la hauteur nécessaire pour que la mort se fasse sur le coup. À une hauteur moindre, on risquerait de ne pas tuer sur le coup le condamné, ce qui entraînerait des souffrances interminables, etc. Donc, pour supprimer toute souffrance lors de l'exécution, il faut que la hauteur soit suffisamment importante. Donc, on statue 10 largeurs de pomme. Et si on demande comment, d'où les rabbins ont déduit cette idée, eh bien, Rav Nachman, un des rabbins qui prend la parole dans le Talmud, explique, on se base sur ce verset du Lévitique 19-18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc pour Rav Nachman, que veut dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Ça veut dire, quand tu le trucideras, tu le feras sans douleur. Donc cette logique est toujours une logique fondationaliste. On fonde une pratique judiciaire sur un verset. Et c'est ce qui fait dire à l'excellent Armand Abécassis, dans ce livre « Judaïsme, de l'hébraïsme aux messianités juives », qui lui fait dire la chose suivante. « Cela fait reposer le droit, l'éthique et la religion adulte sur cet unique fondement du monothéisme biblique. » Donc la pierre angulaire du monothéisme éthique, duquel on va pouvoir tirer une doctrine des droits de l'homme, c'est ce verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rien de bien neuf apparemment. Mais ce que je voudrais faire, c'est contester la validité de cette logique apparente. Je ne suis pas convaincu par cette logique fondationaliste. Je crois qu'elle ne fonctionne pas. Ce que j'aimerais essayer de faire, dans les deuxièmes et troisièmes parties, c'est essayer de montrer qu'on doit au contraire adopter la position peut-être inverse, une position non fondationaliste, voire anti-fondationaliste. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Donc, mon objection principale, c'est quand même que fonder l'idée qu'on ne fait pas souffrir un condamné sur le verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est quand même une lecture assez forcée, assez paradoxale de ce verset. On aurait pu penser à tout un tas d'applications de lecture possibles. Celle-là, ça n'est quand même la plus évidente. Donc la fondation, il y a fondation certes, mais cette fondation me paraît assez paradoxale, pour le dire vulgairement, assez tirée par les cheveux. L'autre objection que je soulèverai, c'est la deuxième, c'est que Armand Abécassis dit bien que cela fait reposer le droit, l'éthique, la religion sur ce verset. Donc ce verset, il est la pierre angulaire, ce verset est censé tout fonder. À vouloir tout fonder, on ne fonde plus rien. Si ce verset est applicable à tous les cas de figure, ce verset s'en trouve affaibli plus que renforcé. Et c'est un principe, là encore, qui me semble très faible, qui ne me semble pas être capable de fonder grand-chose en vérité. Donc, je vais essayer de défendre la thèse qui consiste à dire qu'il faudrait adopter un point de vue anti-fondationaliste plutôt que fondationaliste. Et pour ce faire, je vais poursuivre la discussion du Talmud sur la lapidation. Lorsque on explique qu'il faut telle hauteur de fosse pour tuer quelqu'un sur le coup, un autre rabbin prend la parole et dit une chose, ma foi, très sensée. Pourquoi ne pas doubler, tripler cette hauteur pour être sûr de tuer le condamné sur le coup? Pourquoi insister sur cette mesure précise? Pourquoi deux fois et demi la hauteur du condamné? mettons 10 fois, 20 fois, comme ça on est sûr qu'il ne souffrira pas. Et là, vient l'objection, non, dit la Gemara, cela défigurerait le corps de manière grotesque. Donc on prend le risque de ne pas tuer le condamné sur le coup, pour ne pas le ridiculiser. Soit, pourquoi pas. Mais on voit bien que cet argument n'est tiré d'aucun verset. Cet argument n'est étayé par aucun verset. Ce à quoi on renvoie, finalement, c'est un principe social, intersubjectif, la peur du ridicule. Donc c'est un principe non fondationnel ici, puisqu'on n'invoque aucun verset. Donc la Bible, ici, ne joue plus son rôle de fondement de quelque droit que ce soit, elle n'est même pas invoquée. Ça, c'est un premier argument en faveur de la thèse anti-fondationaliste. Alors, pour préciser un petit peu ce dont il retourne, je vous invite à passer à la deuxième partie qui va essayer de se concentrer sur diverses interprétations talmudiques. Et on va essayer de revenir à ce personnage étrange qui est Shimon ben Chattar. Il se trouve que Shimon ben Chattar apparaît dans un autre traité talmudique, qui est le traité Avot, le traité des pères, le traité des principes, dans lequel on fait une sorte de généalogie des grands sages de la Torah. Et la neuvième Mishnah du premier chapitre du traité Avot, eh bien, c'est une Mishnah qui est avancée par Shimon ben Chattar. Que dit cette Mishnah ? Lorsque vous ferez comparaître des témoins au tribunal, vous prendrez bien soin de multiplier les questions et d'approfondir l'interrogatoire pour ne pas risquer l'erreur judiciaire. Vu l'anecdote que j'ai racontée au début, on comprend bien la position de Shimon ben Chattar. Il a perdu son fils, son propre fils, à cause d'une erreur judiciaire. Donc s'il a un conseil, un seul, à donner à des juges, c'est bien celui d'approfondir l'interrogatoire pour éviter que pareille bévue ne se reproduise trop souvent. Bon, c'est ce que dit la Mishnah. C'est une position qui est parfaitement non fondationaliste, puisque aucun verset biblique n'est appelé à l'appui de ce principe. Au contraire, on sait bien pourquoi Shimon ben Chattar dit une chose pareille. C'est, il tire ce principe de son expérience personnelle et de rien d'autre. Et de rien d'autre. Si on retourne maintenant à la controverse qu'on a évoqué tout à l'heure entre les sages de la Mishnah et Rabbi Eliezer, concernant les pendaisons. On se souvient que les sages se sont servis de la lecture du verset « Un homme est coupable » pour dire « Donc pas une femme, donc on ne pend pas les femmes. » Très bien. Mais Rabbi Eliezer, lui, il pense qu'on pend tout le monde. Donc comment va-t-il lire ce verset ? Bien, il va le lire de la façon suivante. Si un homme... C'est-à-dire, le verset vient exclure non pas une femme, mais vient exclure quelqu'un qui ne serait pas un homme adulte. On ne parle pas de l'homme masculin, on parle de l'homme par opposition à l'enfant. Voilà. Oui, sauf que c'est absurde. C'est très bien qu'un enfant... ne tombe pas sous le coup de la loi. Donc, qu'avait besoin Rabbi Eliezer de nous rappeler que ce verset vient exclure un enfant, ceci. C'est évident pour tout le monde. Alors, il précise sa pensée. On vient exclure, évidemment, les enfants, mais on n'a pas besoin de ce verset pour le savoir. Non, on vient exclure un enfant très particulier qui s'appelle le fils dévoyé et rebelle. Ben Tzoré ou Moré, dont il est question dans le chapitre 8 du même traité Sanhédrin. Donc, ce que je vous propose, c'est d'étudier ce cas très précis, un peu technique, de ce que la Bible appelle le fils dévoyé et rebelle. Alors, pour entamer cette étude de cas, je propose de regarder le verset biblique dans Deutéronome, chapitre 21, verset 18-19. C'est le portrait que fait la Bible de ce fils dévoyé et rebelle. Si un homme a un fils dévoyé et rebelle, qui n'écoute pas la voix de son père, ni la voix de sa mère, qu'il le punisse, mais qu'il persiste à ne pas écouter, etc., etc. Portrait assez laconique. Qu'est-ce que c'est qu'un fils rebelle? Quelqu'un qui n'écoute ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, ça commence à faire beaucoup de monde, et qui est dévoyé et rebelle. Très vague. Et sur cette base simple, sur ces deux simples versets, on a tout un chapitre entier dans le Talmud. Pour essayer de savoir de qui il s'agit exactement. Bon. Alors, de qui s'agit-il? Alors, les sages disent, si un homme a un fils dévoyé ou rebelle, c'est-à-dire a un fils, pas une fille. Donc ce verset vient exclure les filles. Cette catégorie juridique du fils dévoyé et rebelle, il faut la prendre littéralement, c'est un fils et pas une fille. Si une fille désobéit, si elle fait n'importe quoi, ça va bien. Mais elle ne rentre pas dans la catégorie de la fille dévoyée et rebelle, ça n'existe pas. Bien. Ensuite, quel âge doit avoir ce fils? On l'a dit, il ne peut pas avoir moins de 13 ans. En dessous de 13 ans, les garçons ne sont pas soumis à la loi juive et donc ne sont pas redevables à la loi juridique. Très bien. Rabbi Yehuda, dans la Gemara, va expliquer qu'il ne faut pas que ce soit trop grand non plus. S'il est trop vieux, il est certes un fils, mais on ne peut pas le considérer comme un fils dévoyé et rebelle, parce qu'il est trop adulte, trop mature. Donc en fait, la Gemara va essayer de restreindre au maximum la période de temps pendant laquelle un fils est susceptible de devenir dévoyé, ou d'être défini techniquement comme dévoyé et rebelle. Et pour cela, Rabbi Yehuda se base sur la formulation hébraïque du verset. Le verset dit littéralement en hébreu, si un fils dévoyé et rebelle devient un homme, devient. Donc, un fils ne peut être défini comme dévoyé et rebelle que dans le laps de temps qui consiste en la transition, en le passage de l'enfance, fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte. Ça dure, en gros, je vous passe les considérations techniques, hein, mais ça dure 3 ou 4 mois, quoi. Donc on a tout un chapitre du Talmud pour traiter d'un cas qui concerne quelqu'un pendant 3 ou 4 mois de sa vie. Et encore la moitié de l'humanité, puisque les fils sont exemptes. Bien. Ça, c'est pour le fils dévoyé et rebelle. Maintenant, faisons le portrait des parents. Le statut des parents, toujours la même Mishnah, donc toujours traité Sanhedrin, 71. Ah, je continue le verset du Deutéronome, toujours chapitre 21, verset 19-21. Alors, son père et sa mère se saisiront de lui, l'amèneront devant les anciens de la ville, à la porte de sa localité, et ils diront: notre fils est dévoyé, rebelle, il n'écoute pas notre voix, c'est un viveur, un buveur. Alors tous les habitants de sa ville le lapideront à mort, et tu feras disparaître le mal du milieu de toi, et tout Israël entendra et craindra. Et c'est à partir de ce verset là aussi assez laconique que les sages du Talmud vont essayer de comprendre qui sont les parents de ce fils dévoyé et rebelle et ce qu'ils sont censés faire. Et c'est là où la lecture rabbinique devient un tantinet absurde. Que disent les sages? Les parents se rendent au tribunal, ils se rendent au tribunal. Le texte ne précise pas comment, donc ils y vont à pied. Donc si les parents sont kudjat, ils ne peuvent pas y aller au tribunal. Donc même si le fils est buveur et viveur, il ne peut pas être considéré comme un fils dévoyé et rebelle, puisque ses parents ne correspondent pas au portrait robot qui est dressé dans le verset biblique. Donc, si des parents cul-de-jatte ont un fils un peu viveur et buveur, eh bien, tant pis pour eux. Mais il ne sera pas condamné en tant que fils dévoyé et rebelle. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ce fils-là, celui-là, à celui-là. Donc, ils peuvent le montrer du doigt. S'ils n'ont pas de main, ben, leur fils ne peut pas être défini comme un fils dévoyé et rebelle. Celui-là, là, celui-là. Donc, ils sont capables de le reconnaître. Ah oui, mais s'ils sont aveugles, ben, leur fils ne pourra pas être défini comme un fils dévoyé et rebelle. Il n'a pas écouté notre voix. Ah, mais donc, ils peuvent parler. Mais s'ils sont muets. Ah ben, s'ils sont muets, disent les rabbins du Talmud, ah ben non. Leur fils, quoi qu'il fasse, ne pourra pas être défini comme un fils dévoyé et rebelle. Etc., etc. Et on passe en revue toutes les caractéristiques, toutes les infirmités possibles et imaginables qui pourraient disqualifier les parents et par contre-coup, disqualifier le fils qui ne pourrait pas être techniquement, juridiquement reconnu, ni défini, ni donc condamné comme un fils dévoyé ou rebelle. Là, on se rend compte que les rabbins ont une lecture absolument littérale et absolument absurde. On est bien d'accord. Et donc, Rabbi Yehuda, qui participe à la controverse, à la discussion, va encore pousser l'absurde un petit peu plus loin. Il va dire... Le verset dit « Il n'écoute pas notre voix ». C'est-à-dire, il faut que les parents soient d'accord entre eux. Notre voix. Il faut qu'ils parlent d'une seule voix. Il faut qu'ils soient d'accord sur ce qu'ils ont reproché au fils. Là, très bien. Non sans humour quand même. Parce que si un mari est d'accord avec sa femme, ça se saurait. C'est assez rare, quoi. Mais bon, enfin bref. Mais Rabbi Yehuda va plus loin et il lit le texte hébreu de façon très précise. Le texte porte une forme étrange. Le texte dit « Bekoleinu ». Il n'a pas écouté notre voix. « Bekoleinu »« Kol » c'est la voix, donc « Koleinu » c'est notre voix. Mais Rabbi Yehuda dit « Attendez, ils sont deux !» Le texte devrait dire « Koloteinu »« Kolot » nos voix. Une voix plus une voix, ça fait deux voix. Mais le texte dit « Koleinu », comme s'il y avait une seule voix. Donc, Rabbi Yehuda conclut, pour qu'un fils soit défini comme un fils dévoyé et rebelle, certes, il ne faut pas que ses parents soient cul-de-jatte, muets, aveugles, etc. Encore faut-il qu'ils aient exactement le même timbre de voix. Bon, Rabbi Shimon, alors il n'a rien à voir avec Shimon ben Kattar de tout à l'heure, hein. c'est pas du tout la même époque. Hein. Rabbi Shimon coupe court à la discussion, il dit écoutez, maintenant ça suffit, on a compris, et il conclut de Ben Sorer ou Moré, de fils dévoyé et rebelle, il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais. C'est la conclusion de la Gemara. Un chapitre entier dans le Talmud. Ça fait quelques folios. Hein. Bref. Autre passage de la Gemara qui décide, pour mieux comprendre qui est ou qui n'est pas le fils rebelle, décide de faire un parallèle entre le cas du fils rebelle et le cas de la ville subvertie. Donc c'est le dernier point de la deuxième partie, le fils rebelle et la ville subvertie. Alors, on se base là encore sur un texte biblique. La ville subvertie est définie dans le Deutéronome, chapitre 13, dans les versets 13 à 19. Si tu entends dire, à l'égard de l'une des villes, que l'Éternel ton Dieu te donnera pour y habiter, que des hommes pervers, nés dans ton sein, ont égaré les habitants de cette ville en disant, allons, servons de dieux étrangers, que vous ne connaissez point, tu feras une enquête, tu examineras, tu t'informeras avec soin. Et si le fait est avéré, constant, si cette abomination a été commise au milieu de toi, tu passeras au fil de l'épée les habitants de cette ville. Tu l'avoueras avec tout ce qu'elle renferme, jusqu'au bétail, au tranchant du blé. sympathique que le texte sur la lapidation. Hein. Rabbi Eliezer, encore lui, avance l'argument suivant. La ville dont on parle est une ville en Eretz Israël. Il est impensable que dans une ville située sur le territoire d'Israël, on ne trouve pas au moins une mezouza. Mezouza, c'est cet étui qui comporte un parchemin sur lequel sont inscrits les versets bibliques qu'on appose au montant droit de la porte d'entrée. Dans une ville juive en Israël, on trouve au moins une mezouza. Or, il est interdit, selon la loi juive, d'effacer le nom de Dieu. Or, le nom de Dieu est inscrit sur les parchemins de la mezouza. Conclusion, si on trouve une ville qui pourrait être qualifiée de subvertie, si dans cette ville on trouve au moins une mezouza, on ne pourra pas la détruire ni passer quoi que ce soit au fil de l'épée, puisqu'on détruirait la mezouza et que ça conduirait à effacer le nom de Dieu. Ça n'est pas possible. Conclusion de la Gemara, de ville subvertie, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Hein. Bien. Dans la troisième partie, on va essayer de comprendre les acquis de la deuxième. Où est-ce que ça nous mène? Qu'est-ce que ça nous apprend? À quoi est-ce que tout ça rime? Premier point, je crois que ces deux cas de la ville subvertie du fils des voyers rebelles nous apprennent à faire une distinction entre une logique fondationaliste, le fondamentalisme et le littéralisme. Je m'explique. On s'aperçoit dans les deux cas, dans le cas de la ville subvertie, dans le cas du fils rebelle et dévoyé, que les rabbins font systématiquement une lecture exclusivement littérale des versets bibliques. On est habitué à condamner les lectures littérales comme relevant d'un esprit peu élaboré, par opposition à une lecture allégorique, métaphorique, symbolique, interprétative, qui serait plus évoluée, plus subtile, et qui serait donc plus à même de préserver les droits de l'homme. On confond toujours fondamentalisme et littéralisme. Or, ce que viennent nous apprendre ces lectures, ces interprétations rabbiniques, c'est qu'il n'y a pas de lien consubstantiel entre le littéralisme et le fondamentalisme. Le fondamentalisme, c'est ce réflexe qui consiste à vouloir appliquer un verset dans une réalité moderne, quotidienne. Rien à voir avec le littéralisme. Rien à voir avec le littéralisme. Le littéralisme consiste à dire, je ne sais pas ce que ce verset veut dire, mais je vais réfléchir. Et il se trouve que je fais une lecture littérale pour le comprendre. Le fondamentaliste, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit, ce verset est clair, j'ai tout compris, il n'y a pas de problème. Voilà la différence entre le fondamentalisme et le littéralisme. Et pour bien enfoncer le clou, j'aimerais faire une lecture littérale, littéraliste, d'un verset célèbre, trop célèbre, œil pour œil, dent pour dent. Puisque longtemps on s'est servi de ce verset pour expliquer que les Juifs ne savaient pas lire la Bible et que on trouvait dans leur Bible cet abominable verset œil pour œil, dent pour dent qui conduisait évidemment à nier la dignité humaine et les droits humains. Donc on faisait découler la négation des droits d'une lecture littérale. Or, ce que j'entends bien montrer, c'est que c'est au contraire une lecture littérale du verset qui sauve les droits humains. Donc, David Banon, dans une lecture littérale, explique la chose suivante. Le verset dit explicitement et littéralement, « Si un malheur s'ensuit, tu donneras œil pour œil, dent pour dent. » Tu donneras œil pour œil. Si donc, si quelqu'un te crève un œil, tu le lui crèves, tu ne donnes rien, tu enlèves. Donc il faut appliquer ce verset littéralement. Il faut donner quelque chose, c'est-à-dire une compensation financière. Sans quoi rien n'est donné. Sans quoi rien n'est donné. Donc c'est bien une lecture littérale, parce que le verset dit littéralement « tu donneras », c'est bien parce qu'on lit littéralement le verset que les droits de l'homme sont offerts. Qu'on est capable de ne pas crever l'œil de quelqu'un, ni de lui couper la main, ni que sais-je encore. Bon. On va pousser la logique un peu plus loin, on va faire une lecture hyper littérale du verset. Le verset dit œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil. Littéralement en hébreu, le verset dit Ein tachat ein, c'est-à-dire l'œil sous l'œil. Bon, d'habitude, les deux yeux sont côte à côte, hein. Il n'y en a pas rarement un en dessous de l'autre. Mais enfin, ça c'est autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dit le Gaon de Vilna, le maître du Talmud du 19e siècle, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Ein, c'est l'œil. C'est aussi une lettre de l'alphabet. Donc en fait, il faut décomposer le mot Ein en ces trois lettres, Ein, Yod, Nun, et voir ce qu'il y a, Tachat, dessous. Puisque l'alphabet hébraïque, on l'écrit verticalement. Donc regardons ce qu'il y a sous le Ein, regardons ce qu'il y a sous le Yod, regardons ce qu'il y a sous le Nun. Et on trouve trois lettres dont l'anagramme forme le mot Kesef, l'argent. Conclusion du Gaon de Vilna, œil pour œil, dent pour dent, qui donnera de l'argent, compensation financière. Il n'a jamais été question d'arracher l'œil, couper la main, ou que sais-je encore. Voilà comment une lecture littérale et une lecture hyper littérale empêchent de sombrer dans la violence un peu folle. Ça, à mon avis, c'est la première leçon qui nous importe. Deuxième leçon, qui à mon avis est plus intéressante et plus originale, mais plus difficile à accepter sans doute. Le cas du fils dévoyé et rebelle et le cas de la vie subvertie montrent une chose, c'est qu'il y ait des versets bibliques qui ne renvoie à rien, à aucune réalité, puisque les rabbins talmudisent, mais de fils dévoyés rebelles, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Et donc on a des versets qui ne renvoient littéralement à rien. C'est le deuxième point, et c'est ce que j'appelle le fictionnalisme talmudique. Ce que nous apprend ces pages de Talmud, c'est à mon avis cette vérité fondamentale, qui consiste à dire que parce que la Bible est un texte, eh bien ce texte, comme tous les textes, ont une dimension fictionnelle. En d'autres termes, pour le dire très brutalement, oui, la Bible est un roman. Non, la Bible ne décrit pas le monde réel dans lequel nous vivons. Puisque le Fils dévoyé est une fiction, la ville subvertie est une fiction, on a au moins ces deux versets qui relèvent de la fiction. Donc, contrairement à une idée très répandue, il ne s'agit pas de lire la Bible pour appliquer ce qu'elle dit. Il n'y a rien à appliquer. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée d'appliquer Madame Bovary? Non. Pourquoi voulez-vous appliquer la Bible? C'est pareil. Ce sont deux textes de fiction. « Bien. Alors à quoi ça sert? Eh bien, les rabbins du Talmud sont presque réponse à tout. Parce qu'évidemment, il y a des rabbins dans la Gemara pour demander, attendez, vous nous dites que le fils n'existe pas, la vie n'existe pas, pourquoi on a ces versets alors? Eh bien, un rabbin se lève et dit, étudie, et sois récompensé. Eh bien voilà, la Bible c'est un texte, donc la Bible doit être étudiée. Nulle part il est écrit qu'on doit appliquer quoi que ce soit. Ça c'est un fantasme extérieur, qu'on peut expliquer historiquement, hein, on va pas s'en faire devant, mais enfin, qui est né à une époque bien précise, selon des voies bien précises. Étudie, et sois récompensé. Il faut bien comprendre l'impact de ce principe fictionnaliste. Il faut bien comprendre l'impact. On pourrait croire que ça concerne deux versets comme ça, isolés, et que ça n'invalide pas pour autant la perception classique qu'on peut avoir de la Bible. Pas tout à fait mon avis, pour deux raisons. Premièrement, l'anecdote que je vous ai racontée au début, sur Shimon ben Shattar. Elle est elle aussi fictive, fictionnelle. Shimon ben Shattar est connu dans la tradition juive comme celui qui a éradiqué l'idolâtrie. S'il y en a un qu'on ne peut pas soupçonner de laxisme, s'il y en a un auquel on ne peut pas reprocher d'avoir laissé vivre tranquillement une bande de sorcières à Ashkelon, c'est bien Shimon ben Shattar. Ça ne tient pas debout. C'est une fiction. Ça fait réfléchir, ça permet d'étudier, ça permet de se creuser la cervelle. Et qu'est-ce qui se passe, c'est ce qu'on me raconte. Mais ça ne peut pas avoir de base historique. La seule exception qu'ait pu faire Shimon ben Shattar, on la trouve dans le traité de Ta'anit, lorsqu'à deux reprises, au folio 19 et 23, il est question d'une controverse entre Shimon ben Shattar et un personnage complètement étrange, Oni Amehagel, c'est-à-dire Oni le traceur de cercles. C'est un type qui passait son temps à tracer des cercles par terre. Il n'était pas géomètre. Il traçait un cercle, il se mettait dans le cercle, et il lançait une imprécation vers le ciel en disant « Dieu, je ne sortirai pas de ce cercle tant que tu n'auras pas fait tomber la pluie ». Et la pluie tombée. Mais rien, quoi, de la brume, vous voyez. Enfin, non, tu ne m'as pas bien compris, là. Je veux de la pluie, de la vraie. Des trombes d'eau. Non, tu ne m'as pas compris. Je veux une pluie qui soit efficace pour les récoltes. Shimon ben Shattar furieux, quoi. Écoute, Oni Amehagel, tu te rends compte de ce que tu racontes. Si tu n'étais pas Oni Amehagel, je te ferais exécuter. C'est la seule exception qui est faite, Shimon ben Shattar. Alors, l'histoire des sorcières d'Ashkelon, c'est de la pure fiction. De la pure fiction. D'ailleurs, on a une autre version qui est complètement contradictoire, dans laquelle le fils de Shimon ben Shattar n'est pas exécuté. Donc, fiction. Deuxième exemple de cette espèce de contamination de la fiction, une objection, forcément. Lorsque Rabbi Yehuda dit, bon, deux fils dévoyés ou rebelles, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Se lève un rabbin pour dire, si, c'est Rabbi Jonathan qui parle, si, moi, un jour, je me suis assis sur la tombe d'un fils dévoyé et rebelle. Argument imparable. Lorsqu'on invoque des arguments bibliques, on se base sur des versets, etc., on peut toujours objecter quelque chose. Lorsque quelqu'un, un rabbin, se base sur son expérience personnelle, il n'y a rien à objecter. Il l'a vu, l'a vécu, point final. Voilà. Ceci est un verre d'eau, il n'y a pas d'objection possible. On n'objecte pas la réalité. Sauf que, c'est un rabbin, Rabbi Jonathan, qui nous dit, moi je me suis assis sur la tombe d'un... Quoi ? Un rabbin, tu es rabbin, tu t'es assis sur la tombe de quelqu'un ? Ça se fait ça ? C'est des manières ça ? Non, ça se fait pas. Donc on peut commencer déjà à douter de la validité de ce témoignage. Et là où on est complètement sûr que cette objection est complètement fictive, qu'elle est de la pure fiction, c'est que Rabbi Yonatan était Cohen. Et qu'un Cohen qui s'assoit sur une tombe, eh bien il contracte la Touma, l'impureté. Alors s'il y en a un qui ne peut pas s'asseoir sur une tombe, hein, c'est bien Rabbi Yonatan. Donc le Talmud passe son temps à discuter d'un cas qui est fictif, en opposant une objection qui est fictive. On ne peut pas dire que la fiction soit juste confinée à un coin comme ça, obscur. Non, non, ça commence à envahir l'espace de l'interprétation de la lecture biblique. Bon. Troisième point, troisième leçon qu'on peut tirer de ces interprétations talmudiques, c'est ce dont parle Moshe Albertal dans ce livre. Alors, si vous avez un livre à acheter cette année, voilà, Le peuple du livre, Moshe Albertal, sur l'histoire du canon biblique, sur le statut du canon, sur le rôle, la fonction de la Bible dans le judaïsme. Ça, c'est un ouvrage absolument extraordinaire, extrêmement clair, extrêmement argumenté. Donc, Moshe Albertal définit la Bible comme le texte de référence du judaïsme. Et il définit le peuple juif comme un texte, une communauté texto-centrée. C'est-à-dire que ce qui est au centre de la communauté, ce qui fédère la communauté, c'est un texte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la fonction de la Torah, une sorte de point de mire. Tous les juifs regardent vers la Torah. Il n'y en a pas un qui la lit de la même manière. Hein. On en est sûr. Mais tout le monde se réfère au même texte. Ça veut dire qu'il n'est pas question, lorsqu'on agit, lorsqu'on définit la loi juive, lorsque le Talmud, les rabbins, les décisionnaires fixent la pratique, la halakha, il n'est pas question de fixer la halakha en fonction des différentes interprétations. Tout le Talmud regorge d'objections, chaque rabbin apporte son interprétation, sa lecture, etc. À un moment donné, il faut trancher et dire c'est tel rabbin qu'on va suivre. Mais ce rabbin que l'on suit, sur lequel on va caler sa propre pratique, on ne le suit pas parce qu'il a raison. Ça serait une logique fondationaliste. Je fonde ma pratique sur un verset. On ne le suit pas parce qu'il a raison. On le suit parce que c'est comme ça, parce qu'un tribunal rabbinique ou un décisionnaire a décidé que ce serait comme ça. Et qu'à un moment donné, il faut trancher. Donc là encore, on s'aperçoit qu'en fait, contrairement aux apparences, le judaïsme ne suit pas une logique fondationaliste. N'essaye pas de fonder une pratique sur la Bible. La Bible n'est pas un texte, c'est un prétexte. On renvoie à la Bible. Alors tous les rabbins vont y aller de leurs avis. Oui, il est écrit ceci, cela, mais il est écrit, ça n'est pas un argument dans le Talmud, ça n'est pas un argument fondamentaliste. Il est écrit, ça veut dire voilà comment je lis le verset. Et la plupart du temps, c'est une lecture forcée, oblique, étrange. Donc on ne poursuit pas une logique fondationaliste. Là encore. Alors pour terminer, pour conclure, je voudrais peut-être essayer de rassurer ceux qui pourraient être inquiets de ce qui ressemble à une entreprise de démolition. On va me dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'affaiblir les droits de l'homme, là ? Si on dit qu'il n'y a pas de base biblique pour les droits de l'homme, qu'on ne peut pas dériver les droits de l'homme de la Bible, est-ce qu'on n'est pas en train de les affaiblir, là ? Moi, je crois qu'on les renforce. Parce qu'il me semble qu'une logique fondationaliste, une logique qui voudrait fonder les droits de l'homme sur la Bible ou sur quelque autre principe que ce soit d'ailleurs, hein, on parle de la Bible parce qu'on est là pour ça, mais le même raisonnement pourrait s'appliquer à bien d'autres logiques. Vouloir fonder les droits de l'homme sur des versets bibliques, c'est courir deux lièvres à la fois. C'est vouloir asseoir les droits de l'homme pour être efficace et pour protéger les gens, c'est aussi vouloir avoir raison. Qu'est-ce qu'on préfère ? Avoir raison ou être efficace ? Est-ce qu'on est obligé de vouloir convaincre par des arguments rationnels tirée de la Bible, pourquoi pas, selon une logique fondationaliste. Est-ce qu'on est, on veut essayer de convaincre ceux qui ne respectent pas les droits de l'homme qu'ils devraient le faire parce que nous avons raison? Ou est-ce qu'on veut essayer de les convaincre parce qu'on a envie de sauver des vies? Qu'est-ce qu'on préfère, la théorie ou l'action? Est-ce que l'action a réellement besoin de la théorie? La réponse juste, c'est non. On agit, mais tout ça est découplé de la théorie. Notre action ne découle pas de l'interprétation qu'on peut faire de la Bible. On étudie d'un côté, on pratique de l'autre. Il n'y a pas de lien direct, causal, entre les deux. Donc, la tâche, c'est d'essayer de se défaire de cette prétention à la vérité, dans la définition des droits de l'homme, oui à la défense des droits de l'homme, non peut-être à leur définition théorique. Merci de votre attention.
Gérard, j'ai souvent du mal à parler après, mais là j'ai encore plus de mal ce soir. Et pourtant, je devrais être censée pouvoir parler plus facilement. C'est remarquable parce que voilà encore un juif, trois synagogues. Eh bien, un juif, une façon de voir, une façon d'expliquer, une ouverture incroyable. Quelque chose de vraiment très nouveau, pour moi en tout cas, en tant que personne juive, alors c'est quand même vous dire, parce que oui, j'ai bien aimé la façon, la balance, le mouvement de ce que tu nous as apporté sur un point absolument inattendu. J'ai beaucoup réfléchi, tu m'en avais un peu parlé, pas du tout de ce que tu allais dire. Elle m'a dit, j'ai trouvé comment j'allais dire, comment j'allais parler des droits de l'homme. Et sans doute, moi, un esprit très, peut-être, logique, cartésien, je ne sais pas, je m'attendais à quelque chose, oui, comme on peut tous croire au niveau de la Bible que c'est comme ça. Enfin, j'attends vraiment maintenant, j'espère que vous allez rebondir, parce que je crois qu'il y a vraiment de quoi rebondir. Bon, alors Jean-Albert, merci Gérard en tout cas.
Bon, j'ai l'habitude de commencer, alors je vais maintenir cette tradition. Je pense que tu nous invites à une certaine forme de philosophie, des philosophes des Lumières et même des philosophes contemporains d'aujourd'hui. Pense que nous pouvons devenir tous des spécialistes, mais des spécialistes d'incertitude, que nous pouvons tous devenir des professeurs de droit, mais des professeurs de droit à l'erreur. Donc, à ta lecture, dans ce jeu du texte et du prétexte, tu nous dévoiles finalement le côté très riche du peut-être, de sortir des certitudes. Et dans ces discussions, ces controverses, on sent que ce qui est intéressant, c'est de sortir des dogmes et des certitudes, parce que souvent, on tue par les certitudes. Alors que quand on est dans une dynamique du peut-être, on est plus prudent, on est dans une hésitation et on devient beaucoup plus humain. Alors Gérard, je me permets de te demander, est-ce que tu penses qu'on peut faire un lien avec cette notion du droit à l'erreur, de l'incertitude, du doute et du peut-être, qui sont aussi des trésors de spiritualité?
Quelle question ! Ah, je vais peut-être citer mon cher Maharal de Prague. Kulai ve ulai, Tout ça pour un peut-être. C'était son résumé, quoi. Enfin, voilà, tout ça pour un peut-être. Voulez-vous, enfin, de quoi voulez-vous être sûr? Effectivement, philosophie de l'incertitude, droit à l'erreur, évidemment. Alors, je ne voudrais pas que tout ça soit compris comme une apologie du nihilisme ou du relativisme. C'est tout sauf ça. Hein. C'est tout sauf ça. C'est une philosophie, hein, pour reprendre un terme d'un philosophe américain contemporain, Richard Rorty, c'est une philosophie de la conversation. Voilà. Il faut qu'on se mette ensemble en discutant, entre être rationnel, il faut qu'on se mette ensemble sur des principes de vie commune. Ça peut être les droits de l'homme, ça peut être autre chose. Mais en gardant à l'esprit que l'important, c'est que ça doit déboucher sur l'action, sur l'efficacité. C'est ce que je défendrai, c'est une approche très pragmatique. Il faut être efficace. On ne joue pas avec la vie des gens, dans le domaine des droits de l'homme. On doit être efficace. Donc, peu importe, dans nos discussions, que l'on diffère sur les présupposés, sur les postulats, sur la philosophie, sur les valeurs, etc. Peu importe s'il y a des dissensions à ce niveau-là. Le tout, c'est d'être capable de fédérer cette convergence pour arriver à agir. C'est ça l'essentiel. Moi, j'ai peur qu'une théorie ou des principes fondationalistes amènent les gens à préférer la théorie à l'action, à préférer avoir raison, à défendre des idées, c'est quand même très français, hein, défendre des idées plutôt que d'agir. Non. Dès qu'on est on occupe le champ des droits de l'homme, on doit être préoccupé par l'action, pas par la théorie. Parce que de toute façon, il y a toujours un anachronisme entre l'action et la théorie. La théorie, il faut toujours d'abord agir, même si c'est la grande affaire juive, n'a assez de mi-chemin, quoi. Nous ferons et puis nous entendrons. On va agir et puis on comprendra plus tard. Si on attend de comprendre, d'avoir raison, d'avoir une théorie bien formé pour agir, il n'en fera jamais rien, quoi. Et de toute façon, même en ayant une théorie bien fixée, on n'est pas sûr d'agir correctement. Donc, voilà. Mettons-nous d'accord, conversons, réfléchissons ensemble, et puis essayons d'agir, quoi. Un exemple tout de suite, Henri Atlan, les commissions de bioéthique. Dans les commissions de bioéthique, Atlan explique bien que les gens de tous bords sont présents, des athées, des chrétiens, des juifs, etc., qui ne partagent pas les mêmes valeurs, les mêmes sources, les mêmes philosophies, les mêmes postulats, les mêmes présupposés, que sais-je encore. Et pourtant, il faut bien qu'ils agissent tous ensemble. Donc par la discussion, ils vont essayer de trouver un dénominateur commun. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans le nihilisme ni dans le relativisme. Enfin, pas, en tout cas, pas tel que le relativisme est souvent compris, mais... Voilà, trouver le dénominateur commun à partir duquel, c'est-à-dire que c'est toujours un dénominateur commun qui va varier en fonction des groupes, il va falloir le refaire à chaque fois, donc c'est pas un fondement sûr, mais c'est par le dialogue, trouver ce dénominateur commun, et à partir de là, définir une ligne d'action. C'est ce qui se passe tous les jours dans les comités d'éthique, par exemple. Voilà, c'est là où, voilà, merci, j'allais oublier de commenter là-dessus. Tu parlais tout à l'heure, Jean-Albert, de d'Esprit des Lumières. Oui, mais l'Esprit des Lumières en France a été souvent moniste. C'est-à-dire il a défendu, il a essayé d'imposer une vision de la raison, etc. Ce que je défends, c'est absolument rigoureusement un système pluraliste. Voilà.
Excuse-moi aussi. Donc, je ne suis pas juive et je ne me souviens pas ce que veut dire le Kohen. C'est-à-dire qu'un Kohen ne peut pas s'asseoir sur une tombe parce qu'il devient impur. Alors, c'est bien qu'à toutes les histoires de tous les Kohen à travers les générations, ça vient de quelque chose de précis et je ne me souviens plus de quoi. Merci.
un Kohen, c'est tout simplement un prêtre, les Kohanim, c'était des prêtres qui étaient au temple, voilà. Et donc, ils étaient, parce qu'ils s'occupaient des sacrifices quotidiens au temple, ils étaient soumis à un système très strict de règles de pureté et d'impureté. Et donc, l'impureté majeure, c'est tout ce qui a trait à la mort. Donc, par définition, un Kohen ne peut pas s'asseoir sur une tombe. Un Kohen ne peut même pas traverser un champ, par exemple, si on a un doute sur un emplacement d'une tombe. Est-ce que si dans le champ, on croit qu'il y a une tombe quelque part, mais on ne sait plus où, le Kohen va éviter absolument de traverser ce champ pour ne pas contracter l'impureté, etc. Voilà. Donc,
ce qui reste de cela, aujourd'hui, le Kohanim étant... Ce qui reste de la prêtrise du temple, aujourd'hui, les Kohanim gardent un privilège, c'est celui à la synagogue de monter au Eichal et de bénir l'assemblée. Ça existe dans toutes les synagogues. Même mon grand-père est un Kohen, il n'a jamais approché le pourtour d'un cimetière. Le Eichal, c'est l'armoire où se trouvent placés les... Tu es quand même allé dans une synagogue, j'espère. L'armoire, c'est le Eichal. Qui contient les rouleaux de la Torah. Ouais.
Excuse-moi d'avoir pas traduit immédiatement.
Je m'excuse de ma réflexion par avance, qui risque d'être considérée comme basique, mais je ne suis... Je pense qu'il n'est pas possible d'agir de façon pratique, pragmatique, sans avoir une idée, une conviction, entre deux valeurs qu'on peut avoir, je veux dire une qui est plus importante que l'autre. Qu'ensuite on se mette d'accord entre gens qui ont des approches différentes, ça c'est absolument évident et normal. Mais je ne peux pas imaginer qu'on réduise, à une pragmatique, une action. Enfin, moi, ça m'est un peu étranger. Je m'en excuse si je choque.
Non, c'est plutôt moi qui m'excuse, parce que je conçois bien que l'approche pragmatique ou pragmatiste est très exotique. Enfin, bon, c'est très ancré dans la philosophie américaine, et beaucoup, beaucoup moins en Europe, et a fortiori en France. Je crois que c'est... moi, je ferai une distinction entre une valeur universelle... et une valeur universalisable. La distinction n'est pas de moi d'ailleurs, c'est John Rawls, théorie de la justice, enfin, c'est pas de moi. Je crois que parce que nous sommes des êtres rationnels, par la discussion, par le langage, la conversation, les controverses, nous pouvons universaliser, c'est-à-dire en gros traduire ce qui nous tient à cœur dans le langage de l'autre, un processus de traduction, je crois en une valeur, je vais l'universaliser, je vais expliquer à l'autre pourquoi cette valeur me semble essentielle. Je ne crois pas pour autant qu'il y ait des valeurs universelles. Je ne crois pas, voilà. La différence, voilà. Parce que croire en l'essence stable d'une valeur qui serait universelle en tout temps, en tout lieu, je crois que c'est précisément de la fiction. Voilà.
Ce n'est pas le cas que les théories se nourrissent de l'action.
Alors, la question est, est-ce qu'on peut dire que les théories se nourrissent de l'action, c'est ça? Ah oui, je crois. Je crois que de toute façon, c'est un aller-retour incessant. Forcément, enfin, la théorie se nourrit de l'action et vice-versa. C'est vrai dans le domaine politique, c'est vrai dans le domaine scientifique. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je crois qu'on peut pas maintenir une cloison étanche entre la théorie et l'action, bien sûr. Mais je crois malgré tout à une préférence de l'action sur la théorie. au moins en, voilà, au moins en principe, en droit.
Alors peut-être juste pour rebondir, que fais-tu, Gérard, des 10 commandements, des 10 paroles?
Alors, comme je te connais, j'attendais la question. Il y a un livre à lire, bon, ça s'appelle L'éthique juive en 10 paroles. C'est une espèce d'anthologie de l'éthique juive à partir des 10 paroles, donc des 10 commandements. C'est fait par le docteur Francis Weil. Alors, pour situer très rapidement, le docteur Francis Weil, c'est le petit-fils du grand rabbin de Colmar, qui est fondateur de la yeshiva d'Exeben. Voilà, pour situer. Voilà, c'est un très bon livre, anthologie à la fois biblique et talmudique, rabbinique. C'est excellent. Je ne crois pas partager les présupposés de l'auteur, que je crois fondationaliste, parce que précisément, il définit l'éthique juive par rapport aux 10 commandements, etc. C'est très long, c'est très compliqué. Un exemple, etc. Le premier commandement qui n'est pas un commandement, je suis l'Éternel ton Dieu, ne me semble pas répondre à un critère fondationnel. Je ne crois pas pouvoir fonder quoi que ce soit là-dessus. Oui. Mais je ne partage pas ce genre de lecture. Je suis l'Éternel ton Dieu. Si c'est le tétragramme, c'est parfaitement inconnaissable. On ne sait pas ce que c'est. Donc, je vois mal comment quelque chose qui est totalement inconnu et indéfinissable pourrait fonder quoi que ce soit. Pour moi, c'est justement c'est ce qui vient illustrer l'impossibilité de tout fondement stable. Voilà.
Ce sont nos grosses discussions quand on va à Shabbat, tous les deux, parce que nous ne sommes pas d'accord. Et c'est pour ça que je dis une synagogue, une personne, trois synagogues, mais là, nous, à nous deux, ça en fait peut-être six, ça fait beaucoup, mais il est vrai que ce sont des vues, et c'est vrai, une façon de voir, une façon d'être, une façon de penser, et c'est la liberté du judaïsme. Et c'est ça qui est merveilleux.
Gérard, réduisons les 10 commandements aux 7 commandements de Noé, s'il te plaît.
Oui. Oui, mais... Oui. Oui, mais en quoi que... Oui, mais alors...
Est-ce que c'est des
Non. Universalisable, sans doute. Universel, non. Pourquoi? Parce qu'elles apparaissent dans un texte qui s'appelle la Bible que d'autres vont refuser. Donc, universalisable, sans doute. Universel, non. Je mesure l'énormité de ce que je suis en train de dire, hein. J'en suis conscient, hein. Mes postulats philosophiques me poussent à dire non. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il n'y a pas de possibilité de fonder une doctrine de l'homme sur la Bible. Seulement sur la Bible, que ce soit les 7 commandements noachides ou que ce soit les 10 commandements, parce que je pense que ça n'est pas le verset lui-même qui fonde quelque chose, c'est la lecture qu'on fait du verset. Or, la lecture qu'on fait du verset est toujours informée par d'autres choses qui sont extérieures au texte, qui ne viennent pas du texte. Donc, il n'y a pas de fondation pure interne à la Bible.
Dans tout ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai retenu un seul mot qui m'a beaucoup parlé. Et c'est dommage que tu n'as pas développé. Ce mot, c'est « étudie ». Et je voudrais, parce que moi je ne m'en souviens pas, mais s'il te plaît, je viens de faire un cours sur une histoire, une anecdote du Talmud, c'est celle des deux qui vont nettoyer une cheminée et qui se termine par quelque chose qui ressemble à ce que tu as dit. Et tu dis,
je vais parler à la place de mon fils cadet, le spécialiste de ce passage, c'est mon fils cadet. Il a 6 ans, mais il raconte l'anecdote beaucoup mieux que moi.
Françoise, ma femme, avait fait un conte qui a fait rire tout le monde. Mais elle a transformé sa manière.
D'accord.
Mais moi, je reviens au fait du tableau lui-même. Et la conclusion.
Oui, alors, je... Je ne sais pas si j'aurai la formulation exacte du Talmud, hein. Mais c'est voilà, bon, c'est l'histoire de deux types qui passent dans une cheminée. L'un sort propre, l'autre sale. Lequel des deux va se laver? Bon, ben, celui qui est sale, évidemment. Pas celui qui est propre, ben, parce que celui qui est sale, je vois bien qu'il est sale, il va se laver. Ben, en fait, non. C'est celui qui est propre qui va se laver. Parce que celui qui est sale voit que l'autre est propre et se dit on peut aller passer par la même cheminée, moi aussi je suis propre, j'y vais pas. Celui qui est propre voit que l'autre est sale, il se dit on est passé par la même cheminée, donc c'est moi qui vais me laver. Bon. Alors, je ne sais pas. Alors le dernier, je ne sais pas si c'est. Enfin le dernier, mais en tout cas, il y en a un qui intervient pour dire que de toute façon la question ne se pose pas. Parce que comment voulez-vous que deux bonhommes qui sortent de la même cheminée puissent être l'un propre et l'autre sale? Donc c'est une fiction. Donc on est bien dans la fiction qui fonde l'étude. C'est exactement ça.
Mais à la fin, il y en a un qui dit donc
la conclusion c'est chacun doit réfléchir par lui-même. Par lui-même, donc étudie. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est positif, étudie.
Merci Samuel, mais c'est exactement ce que tu nous dis, et c'est ça, l'idée du pull-pull, les écoles talmudiques, et qui sont sans cesse, et qui nous paraissent à tous curieux que ces personnes ne fassent qu'étudier. Mais toujours, là, je pense que ce soir, on peut avoir bien compris ce principe-là.
Alors, excusez-moi, je vais être un peu long parce que je suis tellement passionné, une fois de plus, par ce que nous a dit Gérard. Et en plus, Eliane en a rajouté une couche. Donc, je vais commencer par ça, ce qui n'était pas prévu, parce que moi, je ne suis pas juif non plus, comme Eliane protestant. Mais j'ai une vision encore différente de vous deux pour ce qui concerne ce que vous avez appelé le premier commandement, parce que pour moi, ça n'est pas un commandement, mais une parole. Et ça change tout. Je suis l'Éternel ton Dieu, moi je le reçois comme une parole qui me permet, qui m'offre la possibilité d'être, la possibilité de dire, au niveau humain bien sûr, au niveau humain de dire je suis. Donc la possibilité d'être. Voilà. Ensuite, une fois de plus, bravo, parce que tu as su conjuguer la clarté et la profondeur. C'est absolument merveilleux. Antifondationaliste, alors qu'on pense à l'autre, mais souci de nous fournir constamment les références des textes fondateurs. Ça, c'est très important, parce qu'après, si on veut regarder, et à un moment, j'ai regardé quelque chose, et effectivement, c'était bien ça. Non pas que je mettais en doute, mais je voulais vérifier la manière dont c'était formulé dans ma Bible. Rappeler le fonctionnement, l'intérêt du principe des controverses permettant de creuser sans cesse, de refuser de s'en tenir au superficiel, à l'artificiel, ce qui explique pourquoi le judaïsme est si riche, si profond, pourquoi il nourrit tant notre spiritualité, quelle que soit notre religion, et même en l'absence d'adhésion à une religion. Et puis, j'ai vraiment beaucoup aimé, en fait, cette mise en garde contre un regard superficiel porté sur le Talmud qui pourrait laisser penser qu'en fait, dans le Talmud, on ne fait que... Alors, j'en parle vraiment parce que j'y suis passé tout à l'heure, chez le coiffeur, qu'on ne fait que couper les cheveux en quatre, alors que la finalité permet d'éviter de couper les hommes en deux. C'est-à-dire de préserver les droits de l'homme et la vie. Et ça, c'est extraordinaire. Rappelez aussi, et ça c'était le talion, rappelez la nécessité de toujours regarder au-dessous, au-delà des apparences. Ça, je ne connaissais pas l'histoire des lettres, pourtant je les connais, les lettres hébraïques, mais je n'avais jamais rien entendu là-dessus. Au-delà du paraître, sinon on risque de perdre les yeux, de perdre la vue. Puis remercier aussi, alors ça répond un peu à la... C'est pas moi qui réponds, c'est Gérard qui a répondu tout à l'heure, à la question de l'étude posée par Samuel. Remercier aussi pour nous avoir rappelé l'intérêt vital de l'étude. Et je voudrais citer ce que dit, ce qu'écrit le grand rabbin Gilles Bernheim, j'en parlerai tout à l'heure à la fin, dans un autre contexte, au sujet de l'étude. Il dit, étudier, c'est accepter de remettre en question ses propres certitudes. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Et j'ajoute, on sait combien les certitudes peuvent être mortifères. Je suis tout à fait d'accord avec la remarque qui a été formulée par mon frère et ami Jean-Albert. Je crois que, en fait, c'est grâce au peut-être que l'on peut être. Et puis, je voudrais, bah oui, les jeux de mots, j'aime bien. Des fois, ils sont un peu tirés par les cheveux. Je voudrais donner deux points de vue protestants, puisque je suis protestant, et deux points de vue que j'avais notés de deux pasteurs qui sont très importants pour moi, André Gounel et Eric Fuchs. André Gounel dit « On ne sert pas une cause sacrée ou sainte en utilisant la violence et l'oppression. » Et écoutez bien ce qui suit, parce que je trouve que c'est vraiment très important. Le droit de Dieu ne supprime pas les droits de l'homme, il les exige. Car Dieu veut la communion et l'adhésion, la sincérité et la foi, et non l'obéissance servile. Ah, il disait ça, là, tu ne l'as pas évoqué ce soir, pas tout évoqué, mais à propos de la ligature d'Isaac. Et André Gounel poursuit, le message biblique tel que je le reçois et les principes théologiques du christianisme tels que je les comprends conduisent aux droits de l'homme. Beaucoup de gens les acceptent, donc c'est pas propre au christianisme, et les défendent sans partager nos orientations religieuses, nous pouvons et nous devons nous joindre à eux, et non pas eux à nous joindre à eux sans aucune réserve ni réticence, et là on rejoint ce que nous a lu tout à l'heure Eliane, car l'évangile et les droits de l'homme, pour dire la Bible et les droits de l'homme, s'accordent pour affirmer que la fraternité humaine dépasse toutes les frontières, qu'elle soit culturelle, religieuse ou nationale. Et puis Eric Fuchs, qui est un pasteur théologien de Genève, les droits de l'homme, et ça rejoint aussi quelque chose qui était dit tout à l'heure, sous une autre forme, les droits de l'homme s'inspirent d'une espérance agissante. Et moi je dis, pour nous croyants, c'est la Bible qui nourrit notre espérance, et c'est encore elle qui inscrit cette espérance dans une dynamique de l'action. Donc ça rejoint l'interrogation de Jean-Pierre tout à l'heure. Voilà, merci de votre patience.
Je connais bien André Gounel, je connais moins Eric Fuchs, mais tous les deux pasteurs. André Gounel était professeur à la faculté de théologie de Montpellier. Il a écrit beaucoup de livres. Je l'ai vu à Protestant en fait à Strasbourg l'année dernière. J'étais à une de ses conférences. Il faut bien dire, je ne sais pas si personne ici le savent, c'est que André Gounel ainsi qu'Eric Fuchs font partie de ce qu'on appelle le protestantisme libéral. Je suis protestante comme Norbert, donc c'est le protestantisme libéral et c'est une mouvance du protestantisme qui est quelquefois regrettée par certaines personnes, mais moi je suis entièrement protestante libérale. Et André Gounel a dit un jour, et depuis qu'il l'a écrit, que je l'ai vu écrit dans un de ses livres, je suis protestant, je suis fier de l'être, je le dis aussi, je suis protestante et je suis fier de l'être.
Norbert, tu ne m'en voudras pas de m'engager dans une controverse avec toi. Non, j'essaie d'être bref. Premier point, juste je vais chipoter sur une de tes formulations. Il faut voir au-delà des apparences, au-delà du paraître, etc. J'ai envie de dire justement pas. La lecture littérale, c'est précisément refuser de cette opposition entre la superficialité et la profondeur, entre la paraître et l'essence. Ça, ce sont des catégories grecques ou hellénistiques, etc., qui peuvent avoir leur pertinence, mais la lecture littérale, c'est précisément de dire tout est dans la forme, dans les mots, dans les structures grammaticales, dans les lettres, etc. Il n'y a rien à chercher au-delà. Bon. Alors, je te remercie de ce que tu as pu dire sur les certitudes mortifères, etc. Ça me permettra de compléter ma réponse qui ne me satisfait pas à Jean-Albert sur le peut-être, etc. Je crois que si on veut être un anti-fondationaliste conséquent, on est obligé de dire, je suis obligé de dire qu'il n'y a pas de règle et que l'incertitude peut être mortifère, mais l'incertitude ou le peut-être aussi, et que précisément il n'y a pas de règle, tout est à réinventer à chaque fois, il n'y a pas de garantie. Donc de ce point de vue-là, je dirais que l'incertitude ne vaut pas plus que la certitude, ça dépend des contextes, ça dépend comment on s'en sert, ce qu'on en fait, etc. Bon. Et je voudrais rappeler, parce que ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est une histoire du Talmud qu'on rapporte très souvent et que l'on tronque parce qu'on veut se raconter des contes de fées au lieu de raconter des choses qui dérangent. Rabbi Eliezer, j'en ai beaucoup parlé, Rabbi Eliezer est ce sage qui est engagé dans une controverse dans le traité Baba Matia folio 59b à propos d'un four. Les rabbins s'entre-déchirent à la synagogue pour savoir si le four est pur ou impur. Je vous passe les détails techniques. Rabbi Eliezer est certain d'avoir la vérité. Et donc il invoque des puissances divines. Dire, si j'ai raison, que ce caroubier le montre. Et le caroubier commence à se déplacer pour montrer, oui, il a raison. Que si j'ai raison, que les murs de cette synagogue penchent. Et les murs commencent à pencher, etc. Et son objecteur principal dans la controverse rétorque, mais elle n'est pas au ciel. La Torah n'est plus au ciel, c'est aux hommes à décider ce qu'elle veut dire, et donc voilà. Et donc tout le monde applaudit, tout le monde dit que le judaïsme c'est formidable, ils sont tellement ouverts d'esprit, tellement humanistes, etc. Et sauf que il faut lire l'histoire jusqu'au bout. Il faut lire l'histoire jusqu'au bout. L'histoire n'est pas terminée. Je vous passe des détails. Rabbi Eliezer va s'engager dans une controverse à mort avec Rabban Gamaliel. Et ça se terminera par un décès. Donc il ne suffit pas de dire « n'est pas au ciel, c'est à nous, aux hommes de décider, etc. » pour être quitte des droits de l'homme et du respect de l'autre, etc. Il n'y a pas de garantie dans quelque position que ce soit. Tout est dangereux. tout est potentiellement mortifère, et à chaque fois, il faut faire attention où on met les pieds. Voilà. Troisième point, merci d'avoir parlé de ligature. Dans ma sixième ou septième version, c'était la huitième aujourd'hui, j'avais pensé dire un mot de la ligature, je pensais que ça viendrait sur le tapis, donc c'est venu sur le tapis. Et effectivement, alors là aussi, je voudrais faire une toute petite mise au point. D'habitude, effectivement, bon, historiquement, on s'est servi de ce texte, effectivement, pour essayer de fonder les droits de l'homme. En disant, Isaac n'a pas été sacrifié, on appelle ça la ligature d'Isaac et non pas le sacrifice, c'est le non-sacrifice d'Isaac, donc on voit bien que Dieu ne demande pas de sacrifier qui que ce soit, donc c'est formidable, ce texte nous apprend que, etc., etc. Lecture fondationaliste que je récuse. Rabbi Eliezer, encore lui, chapitre 38, Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est un midrash un peu tardif, à peu près 8e siècle, une anthologie d'interprétation rabbinique. Qu'est-ce qu'on dit juste après l'épisode de la ligature, premier verset de la paracha Chayei Sarah, la vie de Sarah, Sarah meurt. Extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle a appris que Abraham allait vers le mont Moria pour sacrifier son fils, et elle en est morte de chagrin. Même le son qu'avec Baba Matthias 59b pour Rabbi Eliezer et Rabban Gamaliel, il ne suffit pas de ne pas sacrifier Isaac pour qu'il n'ait pas de perte. Sarah meurt de chagrin. On n'est pas quitte pour autant. D'accord ? Réalité terrible. Donc je ne crois pas pour cette raison que la ligature d'Isaac, en tout cas telle qu'elle est lue par Rabbi Eliezer, puisse fonder les droits de l'homme. Ou alors les droits de l'homme, mais pas les droits de la femme.
Bravo Gérard, bien sûr, hein, je suis un peu écrasé par ta conférence, mais pas complètement, et je profite de notre amitié pour te féliciter d'abord, très sincèrement, et il faudra que je relise tout ça, mais aussi pour te dire, et j'ai pris des notes parce que je pensais parler directement, mais j'ai été un peu dispersé par tout ce que j'ai entendu, mon admiration en dehors de toi va à la précocité de l'intelligence des rabbins, puisqu'au deuxième siècle, ils sont déjà pour eux au siècle des Lumières, alors que nous, dans notre Occident, dont on est si fiers, on en est loin. Je suis d'accord pour l'étude, on l'a dit, mais je suis toujours méfiant. Il y a eu chez les chrétiens le gnosticisme, qui me laisse très inquiet, et je me méfie toujours d'un certain élitisme. Alors, c'est pas pour critiquer l'étude, mais je reste quelqu'un de persuadé que tout le monde a accès. Chacun à son niveau. C'est comme des étagères, il y a des niveaux à toutes les tailles et tout le monde peut trouver le livre qui lui convient. J'ai entendu parler du droit de Dieu et du droit de l'homme. Et je suis d'accord que la Bible est une fiction. Alors ça, j'ai des amis évangéliques qui tomberaient de leur chaise. Et c'est vrai que de temps en temps, je me trouve éclairé vis-à-vis d'eux, mais alors ce soir, je suis franchement un arriéré, parce que je ne suis pas fondamentaliste, je n'ai pas une lecture littérale de la Bible. Dans notre communauté, on a ce qu'on appelle une lecture distanciée de la Bible, donc les 7 jours, il faut voir que ce n'est pas 7 jours de 24 heures, etc. Mais je me dis, pour faire court, quand on étudie les textes, ça devient quelque chose de très intellectuel, et je me demande quelle est la place de Dieu dans tout ça, alors que je reste persuadé, pour mon usage personnel, que la Bible a quelque chose à me dire, même sous forme de fiction. Elle me parle pour moi aujourd'hui, dans ma vie, et dans mes décisions d'action. Voilà, alors aujourd'hui j'ai vraiment l'impression d'être très rétrograde, je m'en excuse auprès de vous, mais je voulais en dire un mot.
Alors, sans se perdre dans les arcanes de la théorie littéraire, etc., ce qui s'y arrange pas, c'est que je suis par ailleurs prof de littérature, donc forcément ça rejaillit un petit peu sur ma conception de la Bible, etc. Je veux revenir sur cette distinction absolument fondamentale, c'est le cas de le dire, entre fondamentalisme et littéralisme. Quand le texte dit que le monde a été créé en 7 jours, il a bien été créé en 7 jours. C'est la lecture littérale, en 6 jours, si on veut. Mais simplement, ça ne parle pas de notre texte à nous, puisque c'est une fiction. Dans le monde de la Bible, ça a bel et bien été créé comme ça. Sauf que le monde de la Bible, c'est le monde du texte, ça n'est pas le nôtre. Voilà. Le fondamentalisme consiste à confondre les deux, l'univers du texte et le monde réel. Bon. Ce qui m'amène à complètement oublier le deuxième point. C'était quoi ton deuxième? Ouais, voilà. Alors, la place de Dieu dans tout ça. Je vais répéter la formule du Maharal de Prague, oulai, tout ça pour un peut-être. Dieu existe peut-être, le texte, je suis sûr qu'il existe. Donc j'étudie le texte. Pardon de la brutalité de la formule.
Nous allons être nombreux à répondre.
Voilà. Je suis très intéressé par tout ce qu'on a dit. Alors, comme catholique, et comme prêtre catholique, je suis de plus en plus persuadé dans ma recherche. Je ne sépare pas ma recherche de Dieu. Normalement, quand on a la foi, on est un chercheur de Dieu. De ma recherche de l'homme. Je suis un chercheur de l'homme, en même temps. Mais c'est le lien est profond entre les deux. Je ne peux pas être chercheur de Dieu sans être chercheur de l'homme. Et je ne peux pas être chercheur de l'homme sans être chercheur de Dieu. Parce que je sais pas, ma base de ma foi en Dieu, c'est que Dieu croit en l'homme. Moi, je ne pourrais pas croire en un Dieu qui ne croit pas en l'homme. Et même, je vais beaucoup plus loin. Je dis que Dieu croit en l'homme beaucoup plus que l'homme ne croit en Dieu. C'est l'amour de Dieu pour l'homme. C'est toute l'histoire de la Bible aussi, celui-là. Voilà. Alors, le mystère de l'homme, est toujours à découvrir, comme on a à découvrir le mystère de Dieu, non pas intellectuellement, mais vitalement, dans notre relation avec lui, dans cette alliance dont la Bible parle. Et quand je parle de l'homme, c'est pas abstrait. Je parle de l'homme concret, de l'homme réel et de l'homme historique. Parce que l'homme est toujours dans une histoire. Et nous ne pouvons pas déraciner l'homme de l'histoire. L'homme, il n'est pas en soi, il est un être en devenir. De génération en génération, la Bible en tient compte beaucoup. Et puis en même temps, l'homme est lié profondément à une culture, à une histoire. Alors là, moi, je vois bien dans le catholicisme les choses. Je pense à la période où nos prêtres anciens, parce que les droits de l'homme venaient de la Révolution française, et la Révolution française, elle était anticléricale. Et je me souviens très bien de prêtres anciens qui disaient les droits de Dieu face aux droits de l'homme. Le problème est de dire est-ce que Dieu va défendre ses droits? Est-ce qu'il est là pour défendre ses droits, Dieu? Est-ce que Dieu se réclame de ses droits? Il vit pour l'homme, il donne sa vie pour l'homme. Alors ça veut dire qu'il y a une recherche constante, que pour moi, je vais dire la Créature à elle seule, je parle en catholique, elle n'est pas elle seule parole de Dieu. Elle a vie à elle seule, de l'homme ne peut pas être une seule parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est l'écriture qui féconde la vie, qui fait surgir continuellement la parole de Dieu. C'est ce va-et-vient entre l'écriture et la vie de l'homme. Or, le regard sur l'homme est inséparable de mon regard sur Dieu. Si je regarde la vie de l'homme, c'est un regard dans la foi. Et qui ensuite me fait découvrir davantage ma foi encore grâce à l'écriture. Voilà. Donc je veux dire par là, et souvent je le dis, pour nous, l'évangile. L'évangile n'est pas une recette. L'évangile, d'ailleurs vous l'avez suffisamment dit, hein, l'évangile c'est un ferment. C'est un ferment au cœur de la vie des hommes, au cœur de l'histoire, et c'est un ferment qu'il faut toujours trouver et rechercher. Je pense par exemple, si je prends un petit exemple, la peine de mort. Or la peine de mort, si on prend chez les catholiques, la scolastique, voilà. Thomas d'Aquin était d'accord pour la peine de mort. Et ça, il le justifiait même par l'écriture. Et il partait de ce postulat que l'homme qui est un criminel n'est plus un homme. Donc on peut l'éliminer parce qu'il n'est plus un homme. Là, c'est une manière historique de voir l'homme. Et c'est grâce aux sciences humaines aussi qu'on a avancé. Les sciences humaines, on peut dire, non, quoi qu'il ait fait, l'homme reste un homme. Et donc là, on voit qu'on est dans une évolution constante. Et cette évolution constante veut dire que l'homme n'est pas un être figé, c'est un être en devenir, c'est un homme historique, et Dieu sait si la Bible, c'est la présence de Dieu au cœur de l'histoire des hommes. C'est une parole qui est dite au cœur de l'histoire. Et la révélation avance toujours. Il y a un fondement de la révélation indiscutable, mais cette révélation, elle s'approfondit, elle s'accomplit toujours de plus en plus à travers une histoire qui est l'histoire de l'humanité. Alors pour moi, Bible et droit de l'homme, c'est tellement lié, mais non pas comme recette de la Bible pour les droits de l'homme, mais comme ferment au cœur de l'histoire humaine.
Difficile de reprendre la parole après ça. Je suis très sensible à ce va-et-vient dont vous parlez entre écriture et vie. Et c'est aussi, à mon sens, l'une des significations de l'étude, précisément, puisque l'étude ou la lecture, Mikra, c'est aussi le nom que l'on donne à l'écriture, précisément. En hébreu, on n'appelle pas l'écriture, on appelle ça lecture, parce que le texte n'existe pas sans lecteur. Voilà, donc c'est précisément ce va-et-vient incessant qui fait effectivement avancer. Et, l'homme, être en devenir, effectivement, c'est la raison pour laquelle je tiens absolument à définir la Bible comme de la fiction. Non pas pour tout démolir, mais pour rappeler ce que les protestants connaissent bien à travers Ricoeur, que l'identité de l'homme est une identité narrative. Et que c'est à travers la lecture, l'interprétation, que l'on construit, que l'on modèle, que l'on reconstruit, que l'on fait évoluer, dans l'identité qui n'est pas stable de toute façon. Voilà. Donc effectivement, là-dessus, je pense qu'on se rejoint complètement, absolument. Voilà. Et c'est pour ça que lire la Bible comme fiction, c'est précisément ne pas s'emprisonner dans une illusion qui consisterait à croire que la Bible décrit le monde tel qu'il est, parce que sinon elle n'aurait qu'un sens univoque et on ne pourrait rien inventer. L'intérêt de dire que c'est une fiction, c'est précisément que cette fiction va ouvrir sur ce qui n'existe pas, ou pas encore, ce qui est tout l'intérêt, parce que ça ouvre sur le devenir, effectivement.
Pour revenir à l'épisode d'avant où vous utilisez tout ça pour un peu de pète, ça m'a rappelé, j'ai encore entendu récemment qu'un des noms de Dieu c'est elle, qui a la même racine que Oulai, qui est le peut-être.
Merci Sacha. Moi je voulais effectivement revenir par rapport à ce qu'avait dit Jean-Marc, au questionnement aussi de quelque chose de peut-être plus doux. C'est-à-dire Alexandre Safran. J'ai trouvé dans sa lecture, que j'aime particulièrement et je vous invite, et je crois qu'il est même à la bibliothèque, Éthique juive et modernité. Et c'était aussi, ça s'appelait aussi Israël dans le temps et dans l'espace avant, ça a changé le titre du livre avait changé, mais pas le contenu, c'est magnifique. Et j'ai trouvé surtout un paragraphe qui m'a plu concernant les droits de l'homme. L'ordonnance biblique est formulée à la fois au pluriel et au singulier. Elle s'adresse à la société en tant que somme des individus et personnalité en elle-même. Elle s'adresse à l'homme en tant que personne et en tant qu'être social. Il dit « le droit est ici l'amour ». On n'en a pas du tout parlé ce soir. Et souvent, l'amour est beaucoup plus donné dans les versions chrétiennes. On parle beaucoup d'amour dans la chrétienté, beaucoup plus que dans le judaïsme. Mais ça existe dans le judaïsme. Et lui dit « le droit est ici l'amour ». La charité est ici justice. Et il parle en disant il n'y a pas d'opposition entre la loi et la foi, la loi et l'amour, et elles s'interpénètrent. Le terme de droit est souvent accompagné dans la Bible hébraïque de celui de justice, car le droit n'est pas arbitraire, il vient de Dieu. Dieu, un, de l'amour et de la justice, qui le prescrit à l'homme total, un, l'homme de la rationalité et de la sensibilité, à l'homme dont la destinée est de pratiquer le bien de tout son être. Que nous dis-tu ?
Je ne peux que m'excuser de ma rugosité. Mais je ne suis inspiré que par des penseurs rugueux. Le Maharal de Prague, Menachem Mendel de Kotz, et puis bien sûr Yeshayahu Leibovitch. Des chronolivres à ça. Alors, le droit n'est pas arbitraire car il vient de Dieu. Position fondationaliste. Je dirais dans les termes de David Hume, philosophe britannique, enfin, écossais pendant le XVIIIe siècle, le droit est conventionnel, créé par l'homme, par les conventions, la société, conventionnel, mais pas arbitraire. On se rejoint là-dessus. Le droit n'est pas arbitraire. Certains diront qu'il vient de Dieu, d'autres de la raison, d'autres du droit naturel, d'autres... n'est pas arbitraire. Absolument. On peut le fonder en la raison. Voilà. C'est... Je veux bien dire qu'on peut fonder les choses en raison. Selon une discussion, des controverses, et donc l'esprit des Lumières, pluraliste, mais pas moniste. Mais je parlais tout à l'heure en faisant le portrait des parents du fils des voyers rebelles en parlant de leurs infirmités. Moi, j'avoue mon infirmité absolue. Dès lors qu'il s'agit de parler d'amour ou de foi, j'avoue mon incompétence radicale.
Comme dirait parfois Jean-Marc, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Personne.
Seulement un point de vue technique qui pourrait intéresser tout le monde, toute l'Assemblée. Lorsque tu as parlé de la loi du talion, j'étais étonné que tu n'aies pas cité le professeur Raphaël Drahi, qui intervient souvent maintenant à la télé, on l'entend souvent, et qui a paru ce livre il y a à peu près une dizaine d'années environ. Il date déjà. Et donc, et qui explique exactement ce que tu viens de dire en développant énormément tout un livre pour expliquer que ce qui compte donner, c'est la réparation. Ce qui compte, c'est la réparation, c'est ce qui s'applique dans les tribunaux qu'on connaît, c'est ce qui s'applique aujourd'hui en France par exemple. Donc ce livre existe, je n'ai pas le, la référence, il s'appelle la loi du talion.
Merci Samuel. Ce serait bon d'ailleurs que les changements de mentalité se fassent à ce propos concernant le monde juif. Parce qu'il y a eu souvent des phrases extrêmement dures à propos du monde juif qui est œil pour œil, dent pour dent, et avec une incompréhension totale. C'est là Gérard qui nous l'a très très bien expliqué, et ça demandera à être très connu. Une dernière question. Ah, pardon. Non, alors, attends, il y a une question là.
Ce n'est pas une question, c'est juste une réflexion. Quand Jésus nous dit, bienheureux les simples.
Ça, ça rejoint vraiment quelque chose qui est aussi dans une discussion dans notre maison, où il y a une simplicité à vivre et une complexité à être juif.
Alors moi non plus, ce n'est pas une question, c'est aussi une réflexion. Je suis étonnée que nous n'avons pas parlé ce soir de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui date de 1948, dont Stéphane Hessel a été un des co-rédacteurs, qui vient d'écrire un petit livre « Indignez-vous », et ça, je vous l'engage à l'acheter et à le lire. À 3 euros, ce n'est pas bien loin. Et oui, mais enfin, ça porte à discussion, d'accord. Mais il y a quand même la Déclaration universelle des droits de l'homme dedans. Oui, mais c'est des droits de l'homme. Déclaration des droits de l'homme. Universelle. UNESCO. C'est plus une déclaration des droits de l'homme de 1789.
Excusez-moi, mais le peu que j'en ai lu, puisqu'on nous l'a offert, effectivement, je me suis assez vite arrêtée, parce que j'ai pas dû lire, vous voyez, j'arrive même pas à le dire, j'ai pas dû lire la bonne page, mais celle que j'ai lue m'a fait beaucoup de mal. Donc, j'ai arrêté tout de suite. Alors, peut-être vous avez raison, tu as raison, Eliane, peut-être, mais alors à ce moment-là, on n'est pas là pour ça ce soir, parce qu'il y a énormément un point de vue de politique et un point de vue... voilà, qui lui est propre, hein, chacun a le droit, mais peut-être on n'est pas là dans cette discussion ce soir. Très bien, merci. Bien, merci. Alors, je parle.
Oui, alors, je n'en ai pas parlé, enfin, pour une raison très simple, c'est que l'intitulé c'était la Bible et droits de l'homme. Et puis, pour faire une analyse littéraire ou rhétorique rapide, la déclaration universelle de 48, donc celle de 48, elle n'est pas universelle. Oui, oh, oui, bien sûr, mais elle est peut-être, à force de controverses et de dialogues, universalisable, mais universelle certainement pas. Je peux, en tant que pragmatiste, comprendre l'utilisation juridique qui en est faite, et je l'approuve. Je ne peux pas, en tant que pragmatiste, pour autant, la définir comme le fondement universel de quoi que ce soit. En droit anglo-saxon, on appelle « legal fiction », une fiction légale. Oui. Mais, encore une fois, parce que c'est efficace et pour des raisons d'efficacité, j'applaudis des deux mains. Absolument. Mais oui, évidemment. C'est une utilisation juridictionnelle, juridique, absolument indispensable, évidemment. Pour autant, d'un strict point de vue philosophique, pour employer un gros mot, n'en faisons pas un fondement universel qui ne serait, à mon avis, pas tenable. C'est tout. Ah ben, oui, on va en revenir là. Ben, pour une raison, enfin, pour une raison très simple, c'est que de mon point de vue pragmatiste, je crois qu'il n'y a pas de fondement possible. Parce que tout texte dépend d'un contexte particulier, tout texte est à lire, à interpréter, c'est d'ailleurs ce que font les tribunaux. Ils disent le droit, ils interprètent, ils font évoluer les normes, etc. Donc, à travers, effectivement, la jurisprudence, etc., leurs attendus, ils universalisent leur position, mais précisément, ils ne peuvent universaliser leur position que parce qu'elle n'est pas, au départ, universelle. Elle est juste universalisable. Donc, on reste dans la même logique que tout à l'heure, et voilà.
Comme il faut que tout débat puisse s'arrêter, l'heure avance et je crois qu'on pourrait continuer encore longtemps. Ça, c'est sûr. C'était vraiment extrêmement passionnant, Gérard. Et merci, merci pour ce beau travail, pour la documentation que tu nous as donnée avant. Ça permet bien de faire la synthèse et d'y réfléchir encore, bien sûr.
Et la possibilité de relire.
Alors, de relire, d'aller sur le site, bien sûr, peut-être même pour réécouter. Et vous avez pris quelques, j'espère, en tout cas, prenez-les, des feuilles que j'avais mises. Ça concerne le dialogue judéo-chrétien, mais ça se passe en Israël. Et vous verrez, le texte est très, très intéressant, car il y a eu Florence Soman qui était notre présidente de l'Amitié judéo-chrétienne de France qui viendra le 15 mars. Il y a eu le père Desbois. Il y a eu le père d'Abou Ghosh. En tout cas, de nombreux membres qui se tournent vers une possibilité de dialogue en Israël judéo-chrétien et qui prendrait modèle sur la France. Parce qu'ils trouvent que justement en France, nous avons une qualité et un niveau de dialogue qui est parmi les meilleurs, en tout cas en Europe, et même certainement par rapport aux États-Unis. Donc on peut se féliciter de cela, et tous ici se féliciter, parce qu'effectivement, des petites associations comme l'Amitié judéo-chrétienne peuvent être des modèles. Mais lisez, vous verrez que c'est très très intéressant, ça n'a rien de politique. La base du dialogue est une base très très importante. Norbert va aussi nous parler. Voilà, je vais vous le passer.
Alors, je suis désolé de monopoliser un peu ce soir, mais je voulais vous parler. J'ai eu la semaine dernière deux coups de cœur et encore un ce soir. Donc je voudrais, dont je ne vais pas vous parler parce qu'il ne concerne pas l'Amitié judéo-chrétienne. Par contre, ce soir, je suis retourné sur le site qui figure en bas, le site de l'Amitié judéo-chrétienne de France, et là encore, Marie-Lou est là, voilà, il y a toujours une discrimination entre ceux qui ont Internet et ceux qui n'ont pas, fracture numérique, toujours. Mais ceux qui l'ont, ou ceux qui ne l'ont pas et qui peuvent accéder chez quelqu'un d'autre, je vous encourage vraiment à y aller. C'est un site déjà qui est remarquablement fait et qui est d'une richesse extraordinaire. Vous allez trouver plein de choses. Vous allez déjà trouver le programme de ce soir. Par exemple, la possibilité, alors vous l'avez eu avant parce qu'on l'avait mise sur le site de la paroisse de l'Église réformée qui figure en haut, la conférence au format texte, au format PDF de Philippe Abadi avec sa photo. Donc vraiment, je vous encourage à y aller. Et Eliane a parlé de Florence Sogman. Il y a un texte accessible sur le site, un texte absolument remarquable. Donc je vous encourage à aller sur ce site. Et puis, autre coup de cœur que j'ai partagé avec un certain nombre d'amis dont j'ai la liste des mails, c'est une newsletter, donc un terme barbare. Newsletter, c'est simplement une lettre d'information. En l'occurrence, une lettre hebdomadaire qui constitue pour moi le plus souvent, c'est ce que j'ai mis aux amis à qui j'ai envoyé ce coup de cœur, non pas un moment de bonheur, parce que le moment de bonheur, souvent, c'est très éphémère, mais une réelle source d'enrichissement, source qui infuse et diffuse dans le cœur et l'esprit une joie profonde, qui est bien autre chose qu'un moment de bonheur. Et dans celle de cette semaine, dans celle de cette lettre hebdomadaire d'information, le grand rabbin Gilles Bernheim propose une réflexion sur des questions fondamentales, certaines revêtant un caractère d'extrême gravité. Et il y en a le texte, je ne vais pas vous le lire parce que c'est très long, c'est remarquable mais c'est très très long, donc je ne veux pas abuser de votre patience. Comme toujours, la pensée de Gilles Bernheim est lumineuse d'intelligence, de rigueur, d'invitation à la prise de conscience et à l'engagement responsable. On retrouve des thèmes qu'on a vus ce soir. Et celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient s'abonner, c'est bien entendu entièrement gratuit, pourront venir me voir tout à l'heure, je leur expliquerai comment faire. Je souhaitais vous en parler ce soir parce qu'il me semble important pour nous, membres de l'amitié judéo-chrétienne, de pouvoir suivre, semaine après semaine, les informations qui sont données qui sont mises à disposition par le grand rabbinat. Cette lettre, elle s'appelle en fait la lettre du grand rabbinat de France. Alors pourquoi? Parce qu'on est dans une époque extrêmement troublée, ça a été évoqué tout à l'heure, où de nombreux juifs se sentent à juste titre menacés. Vous savez qu'il n'y a jamais eu autant de sites internet antisémites. Il n'y a jamais eu autant. Il n'y a jamais eu autant de haine. Il n'y a jamais eu autant de haine parce que, en fait, c'est un petit peu comme avant, quand on faisait la guerre avec des moyens basiques. Bon, il y avait des morts, c'était extrêmement cruel, mais c'était assez limité. Mais maintenant, en fait, on peut faire la guerre. La haine, elle est extrêmement facile à proliférer parce que les possibilités offertes, c'est pas le terme qui convient en l'occurrence, mais par le monde numérique, c'est absolument monstrueux. Alors, un point positif quand même, signalé par Gilles Bernheim, ça a été évoqué tout à l'heure par Eliane, en novembre dernier a été créée la conférence des responsables de culte en France. Donc Eliane a cité les responsables actuels de ces cultes. Et cette initiative vise, dit le grand rabbin, et ça c'est très intéressant, la manière dont il formule l'objectif, vise à tenter de dépasser les peurs invétérées pour permettre à la force de l'hospitalité d'irriguer la pratique du dialogue entre les religions. Et pour terminer, je voudrais citer deux phrases de Bernheim. Deux phrases qui sont révélatrices, à mon sens, de la qualité d'être de cet homme d'exception. C'est vraiment un bonheur, une joie de savoir qu'à la tête du grand rabbinat de France, on a un homme de cette qualité. Première phrase. Vous allez voir que c'est tout à fait d'actualité. L'être humain a d'autres valeurs que l'argent et d'autres obligations que boursières. Et la seconde phrase, le judaïsme dit que le pire pour un pauvre est de n'avoir pas de quoi assister plus pauvre que lui. Car tant que l'homme est capable de dons, il se maintient à niveau d'humanité. Voyez un peu la profondeur, la qualité d'être exceptionnel de cet homme. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci Norbert. Et ça rejoint un petit peu l'annonce que je veux vous faire. Justement, à propos de ce dialogue, il n'est pas seulement entre juifs et chrétiens sur Annecy. Il existe aussi, dans un dialogue avec les bouddhistes et les musulmans, je vous l'ai souvent dit, il y aura le 22 janvier à 19h30 à l'église réformée un repas, un dîner couscous avec les musulmans. Et ce sont nos amis musulmans qui vont faire donc ce couscous. Et nous sommes tous invités, ceux qui veulent, donc chrétiens, catholiques, protestants, juifs, à venir. Et bouddhistes, bien sûr. Ce sera, parce que là, ce soir, je pense qu'il n'y a pas de bouddhistes, mais bien sûr, les bouddhistes sont toujours là. Et il y aura des tables. Si nous arrivons à être 80 personnes, 100, ce sera un maximum, parce qu'après, il n'y a plus de place là-haut. Ça sera formidable, des tables de 8 ou 10. Et nous serons comme ça dispersés aux tables pour pouvoir dialoguer sur un thème qui sera donné à chaque table. Donc c'est pas seulement manger, c'est manger aussi, se faire plaisir, mais c'est aussi se nourrir de quelque chose de plus profond qui est justement la relation à l'autre, et d'autant avec tout ce qui se passe actuellement. Donc, et nous, 19h30, mais je vais vous dire, pas 19h30, alors je vais vous dire pour le monde juif, alors c'est 10 euros par personne, c'est le prix minimum du repas. C'est, la réponse c'est jeudi au plus tard, ou bien vers moi, mais il faut aussi que nous ayons l'argent, puisqu'il faut donner cet argent à nos amis musulmans. Alors, pour le monde chrétien, c'est Anne de Calignon. Écoutez, en fait, j'ai quelques papiers ici. Ceux qui sont intéressés, où ils écrivent les téléphones pour pouvoir s'inscrire. Oui, c'est les téléphones le mieux. Je vous laisse, j'ai deux, trois, c'est tout. J'ai juste deux, trois papiers que je laisse sur la table. Merci pour ceux qui ont envie de venir. Nous savons déjà qu'il y a du monde. Chez les amis juifs, pour l'instant, nous ne sommes pas encore très nombreux, mais si on peut être 7 ou 8, ce serait merveilleux. À vous donner, bien sûr, la prochaine réunion, je la redis, le mardi 15 mars avec Florence Thaumann. Donc vraiment là, nous sommes nombreux ce soir et merci, mais si on peut être encore beaucoup plus nombreux, ce serait formidable. Elle se déplace de Limoges et aussi important, de toute façon, que ce soit Gérard, que ce soit Florence Oman, bien sûr, chaque conférencier est important. Disons qu'elle est la présidente. Qu'elle voit que nous sommes, alors c'est pas à vous, venez, venez, et puis faites venir les amis autour de vous. Après je te passe la parole, Jean-Marc. Je sais qu'il y a des choses, tu as des choses à dire, non? Il n'y avait pas des réunions, des choses. Non. Ah bon, pour des rendez-vous, il n'y avait pas. Je rappelle la bibliothèque. Alors, pourquoi je dis c'est important? Il y a des livres, deux livres, qui ont été prêtés. Elles appartiennent à la bibliothèque d'ici, de la Puyat. Et puis, il y a quelques livres qui m'appartiennent, mais qui appartenaient, on va dire, avant à l'amitié judéo-chrétienne. Et puis, des sens. Prenez-les. Faites-les circuler surtout. Les deux livres, voire trois livres qui ont été prêtés, il est nécessaire qu'ils tournent ou qu'ils nous soient rendus. Et c'est Michel, notre secrétaire, qui s'en occupe, c'est vers elle qu'il faut aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a ces livres ou vous en avez? Il faut absolument nous les rapporter pour les faire tourner. Et en plus, ils ne nous appartiennent plus. Et on est responsable. Et je me suis vraiment posée comme responsable vis-à-vis de la bibliothèque du diocèse. Merci. Hein. Donc la prochaine fois, vous les rapporterez. Et puis comme ça, ça tourne. Non, non, vous me les rendez ici. La bibliothèque, non, vous les rendez ici, éventuellement à Michel, oui, mais toujours à une séance. Ça laisse le temps quand même, hein. Ça laisse le temps de lire. Si c'est trop compliqué, à nouveau nous arrêterons. Oui, nous payons, nous avons payé 10 euros pour l'année. Bon, c'est l'amitié qui paie, hein. Voilà. Donc, mais c'est surtout le sens de la responsabilité. J'ai promis que ces livres, il me les a donnés comme cela, j'en ai pris 4. Donc il faut vraiment qu'à un moment donné, nous puissions les rendre. Mais surtout, le but, c'est qu'ils circulent. Alors, il nous reste 3 séances. Donc, Florence Oman, le rabbin Garal, et puis notre repas partagé avec, vous savez, un petit résumé de ce qui a été fait par, le résumé sera fait par Jean-Marc. Je crois que tout a été dit. Non, une chose, excusez-moi encore. Pour les membres du bureau de l'amitié judéo-chrétienne, j'ai proposé Père Barcellini, qui verra après, j'ai proposé la date du 7 février. En principe, tout le monde est d'accord pour les membres du bureau. Père Barcellini, le 7 février, c'est d'accord pour tout le monde, 15h chez moi. 15h. Donc pour ceux, maintenant, oui, d'ici février, on ne se revoit pas. Mais si vous avez des idées, que vous avez des souhaits, vous m'appelez. Parce que justement, que peut-on faire l'année prochaine? Cette réunion de bureau, c'est pour le futur programme. Alors si, je savais que j'avais quelque chose à vous dire. Il y a un livre absolument magnifique que Philippe Haddad, un rabbin que nous avions fait venir il y a quelque temps et qui malheureusement avait dû venir, avait eu un accident de voiture, souvenez-vous, et il n'avait pas pu venir. Et c'est Jean-Marc qui l'avait remplacé, c'était pas simple, sur l'écriture sur les évangiles. Il a sorti un livre que j'ai passé au Père Barthélemy. Je l'ai acheté et je l'ai offert à l'amitié. Parce que je le trouve merveilleux, je n'ai même pas fini encore. Il s'appelle « Quand Jésus parlait à Israël ». Donc, dans un premier temps, je l'ai proposé au Père Barcellini. Ça peut peut-être nous inspirer, peut-être, pour l'année prochaine. Quand le Père Barcellini aura fini, il sera là et on pourra le faire circuler. Il est à nous, là. Il est à nous. Ah, alors, voilà. J'ai le petit papier, prenez-le, écrivez, voilà, c'est le petit papier d'inscription par courriel. Éventuellement, tu veux le marquer, Norbert? Mais en fait, il n'est pas, non, il faut, moi je l'avais commandé à quelqu'un, en particulier, là, il est à commander chez l'auteur par courriel. Le courriel... Ah oui, pauvre Philippe Haddad, en un seul mot, @hotmail. Tu veux bien nous le noter, s'il te plaît, Norbert? Voilà. Tiens. Voilà. hotmail.fr. Il va tourner. De toute façon, vous pourrez le lire. Il sera là aussi, Marie-Lou. Philippe Haddad. H-A-D-D-A-D. Alors peut-être, on ne sait pas si ça pourrait être un prétexte aussi pour le faire revenir. Ah oui, c'est vraiment... Mais voilà. Toujours, mais c'est pour ça que nous nous y prenons très tôt, là. Février, on essaie de faire vraiment un programme. Ah, il y a 2D, AD. Ah oui, oui, il y a beaucoup. Oui, moi j'en ai pas mal à la maison. Je pense qu'on peut les trouver. On peut lui demander, oui, oui. Une lecture juive de la parabole de Jésus, hein, c'est cela, quand Jésus parlait à Israël. .fr. Voilà, je crois là que... C'est Philippe Haddad en un seul mot, hein, tout en minuscule, bien sûr.
Je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est Liane qui m'a fait penser avec le repas couscous. Les ténèbres menacent de plus en plus, mais il y a des points de lumière extraordinaires. J'ai parlé de Gilles Bernheim, et il y a aussi 2 personnes que je voudrais citer. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre dans le cadre de l'émission de Malka, Victor Malka, sur France Culture, le dimanche matin à 9h15, il avait invité... l'imam de Drancy, qui est quelqu'un dont la vie est menacée. Et ils ont parlé, enfin, l'imam, non, c'est pas l'imam d'ailleurs, c'est Victor Malka qui a évoqué la mémoire de Mohamed Harkoun, qui était un philosophe, philosophe algérien, si je ne me trompe pas, qui est mort en août, je crois, et qui a dit, écoutez bien, c'est un musulman, même si c'était un agnostique, ce n'était pas un pratiquant, qui a dit, c'est notre devoir d'enseigner aux nôtres, aux musulmans, d'enseigner que la Shoah a été monstrueuse d'irrationalité et d'inhumanité. Ce n'est pas seulement un constat qu'il fait. Il dit, c'est notre devoir de l'enseigner.
Merci Norbert. Alors peut-être sur cette lumière et sur cette pensée et réflexion très positive, moi je vous souhaite le bonsoir, une bonne période, et on se retrouve donc le 15 mars. En attendant, il y aura des vacances scolaires. Est-ce que pour toi c'est tout bon, Gérard? Voilà. Merci encore à toi, Gérard. Bonsoir.